avant le message, donc j'aimerais donner un petit témoignage. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir voyager cette année, en fait, l'année passée, je dois dire maintenant. Et j'étais parti voir ma mère qui habite à Boston. Et de là, j'avais un neveu qui recevait son diplôme en Floride. Donc je suis parti une semaine en Floride. Et on était revenu à Boston. Et de Boston, on est parti en Haïti pour 2 semaines. Et je peux dire que c'était vraiment des moments de bénédiction, de retrouvailles en famille. Et j'ai pu voir aussi l'œuvre que Dieu fait en Haïti. Et j'ai pu constater que le réveil qui avait débuté suite au tremblement de terre, bien ce réveil-là continue. Et cette année, j'ai pu vraiment voyager. Je suis allé au nord du pays, je suis allé au sud du pays. J'ai parcouru le pays de long en large. Et j'étais retourné dans ma ville natale. Et j'ai vu vraiment la main de Dieu à l'œuvre. Quand, je me rappelle, dans les années 70, dans les églises, il y avait parfois ce clivage entre baptistes, pentecôtistes, etc. Et de nos jours, il n'y a plus vraiment ce clivage-là. Tu peux aller d'une église à l'autre, il n'y a presque pas de différence. Et je peux dire même dans les églises catholiques, les églises catholiques charismatiques. Il y a cette liberté de prier, de louer, de chanter le Seigneur, de danser même. C'est formidable. Et donc, dans ma vie natale, au moment où je partais, je voyais qu'ils avaient bloqué une rue, qu'ils avaient monté une plateforme. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et bien sûr, toute la place publique, ils allaient faire une campagne d'évangélisation. Imaginez, ils ont carrément pris la place. Il ne faut pas d'autorisation, quoi que ce soit. Dans mes contacts avec les gens, on sent vraiment que l'Évangile a pénétré vraiment tout le pays. Et j'ai pu visiter quelques églises, dont l'église que j'avais voulu visiter lors de mon premier voyage. C'était le 31 décembre. Donc, pour avoir de la place, j'étais allé 2 heures à l'avance. et vraiment, l'église était remplie. Et après, j'étais sorti un peu, à un moment donné, pour aller aux toilettes. Et qu'est-ce que je vois? Dehors aussi, c'est rempli. C'est pas possible. Donc, si tu arrives en retard, il n'y a pas de place. Alors, on a mis des chaises dans le couloir qui mène à l'église. C'est extraordinaire. Et le même jour même, il y avait une personne qui a accepté le Seigneur. À la fin, on a fait la paix. Et alors, on me dit, c'est dans toutes les églises, c'est pareil. Donc, c'est comble. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Et puis, autre chose que j'ai remarqué, comme je dis, j'étais allé dans le sud. Vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an de ça, il y avait eu le cyclone Matthew qui avait fait beaucoup de ravages. Et on est allé dans le sud. Et j'étais avec mon oncle et son épouse, eux qui circulent beaucoup dans le pays. Et quand on est arrivé dans le sud, il n'y avait plus de traces de ravages. Eh bien, c'était la verdure. Et quand on est arrivé là, l'épouse de mon oncle a dit, mais on dirait qu'il n'y avait pas eu de cyclone. C'était extraordinaire. Alors, un petit dernier témoignage. Donc, on a quitté Haïti le mercredi. Et alors, on arrive à Boston. Temps clair. Bien sûr, il faisait froid, mais temps clair, route dégagée, pas de problème. Arrivé le matin à 1h du matin. Et alors, dans la journée, on annonce qu'il y aurait une tempête, une grosse tempête qu'on appelle la bombe climatique. une vague de froid qui affectait toute la côte est des États-Unis. Et alors on prévient tout le monde qu'il va y avoir une grosse tempête de se préparer. Et alors le mercredi, tout le monde qui se rue dans les magasins pour vider les rayons de pain, de lait, etc. Et alors dans la journée, quand j'ai dit aux gens que donc mon voyage était pour vendredi, ils m'ont dit, ah, c'est sûr que tu vas voyager vendredi. J'ai dit, mais oui, mon voyage est programmé le vendredi. Et il y a eu même certaines personnes qui voulaient même instiller la panique en disant, c'est pas possible. Certaines personnes me disaient carrément que c'était pas possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à cette prière que j'avais faite au Seigneur en planifiant mon voyage. J'ai dit, Seigneur, tu connais le passé, le présent et l'avenir. Aide-moi à choisir les bonnes dates pour mon voyage. Et j'étais calme après ça et j'avais envoyé un email à Pascal de dire de prier pour moi. Et il a dit, oh, je vais prier pour toi. Et on a un ami qui devait venir nous chercher pour m'amener à l'aéroport. Et quand il lui dit, est-ce que tu es sûr que on n'a pas reporté, annulé le vol? J'ai dit, de toute façon, si le vol était annulé, j'aurais reçu un email disant que le vol est annulé ou reporté. Mais j'ai fait confiance au Seigneur. Et effectivement, le jeudi, grosse tempête de neige, jusqu'à 40 cm de neige. Et voilà, pratiquement tout est bloqué le jeudi. Mais vendredi, qu'arrive-t-il? Magnifique soleil, les routes sont totalement dégagées. Et je me rappelle en allant à l'aéroport, ma mère disait, mais on dirait qu'il n'y avait pas eu de tempête de neige. Et alors imaginez comment le Seigneur a planifié les choses. Lors de mon retour d'Haïti, temps calme, pas de problème. Il y a eu la tempête juste entre les deux voyages, entre mon retour d'Haïti et mon retour en Europe. J'ai dit, le Seigneur est vraiment grand, il répond à la prière. Imaginez, la tempête aurait pu avoir lieu le mercredi ou bien le vendredi. Mais la tempête est arrivée le jeudi et s'est confinée simplement au jeudi. Et je dis donc, gloire à Dieu. Et donc, je voulais donner ce témoignage parce que David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses noms. À la gloire de Dieu, j'ai donné ce témoignage. Alors, j'aimerais partager avec vous ce matin un message qui est aussi mon vœu pour vous. Ce matin, qui se trouve dans 3 Jean. Trois Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Et je dirai les 2 premiers versets. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc voici mes vœux pour vous ce matin. Donc je fais mien les propos de l'apôtre Jean à son bien-aimé Gaius. Bien-aimé. Comme j'aime ce mot-là. Bien-aimé. Et ce terme est répété 4 fois fidèlement lorsque tu fais. Et ensuite, au verset 11, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Bien-aimé. Quel amour, quelle affection, quelle tendresse dans ce terme, bien-aimé. On voit toute la tendresse de Jean pour Gaius. Et lorsque je réfléchis à ce terme bien-aimé, je vois tout le respect, toute l'estime, toute l'affection de Jean pour Gaius. Et dans ce terme bien-aimé, je dis le vocabulaire de Jean reflète aussi le caractère, la personne de Jean. Est-ce que vous savez que notre vocabulaire révèle qui nous sommes? Quelle est notre personnalité? Au bureau, j'avais un collègue. Et ce collègue avait toujours la même conversation. On ne partageait pas exactement le même bureau, mais il arrivait que parfois on faisait des activités ensemble. Et je me rappelle un jour, on avait organisé ensemble une sortie à l'heure de midi pour manger ensemble. Et ce collègue n'avait qu'une conversation. Eh bien, c'était lui qui dominait pratiquement la conversation et n'avait qu'un thème dans son langage. Et ce qui fait que chaque fois qu'on voyait ce collègue, eh bien, on ne pensait que à cela, cette obsession de cet individu, de cette personne. Et donc, certains collègues voulaient même éviter cet individu parce que il n'avait que cette conversation en bouche. Et donc ici, on voit Jean qui parle de bien-aimé. Et lorsqu'on lit tous les écrits de Jean, on voit cet amour qui sort de l'apôtre Jean. Quand on lit son évangile, on peut lire le disciple que Jésus aimait. Quand on lit sa première, sa deuxième épître également, eh bien, toutes ces épîtres transpirent l'amour. Et donc, on voit vraiment l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Il parle d'amour, de vérité, de lumière. Et quand on lit Jean, on sent vraiment qu'on lit l'apôtre Jean. Et donc ici, le terme bien-aimé reflète le caractère de Jean. Un homme qui est rempli d'amour. Alors, aujourd'hui, en ce début d'année, quel est notre vocabulaire? Quelle est notre conversation? Est-ce que notre conversation, notre vocabulaire est un vocabulaire d'encouragement, est un vocabulaire positif, est un vocabulaire, eh bien, qui apaise, ou bien est-ce un vocabulaire qui fait fuir? Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Quand Jean dit « je souhaite », c'est comme une prière. Je prie que tu prospères. Et le chrétien, c'est ça. Lorsque nous souhaitons, c'est pas, comment est-ce que je pourrais dire, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça veut dire ce sont des choses qui viennent vraiment du cœur. Et je prie que tu prospères Et qu'est-ce que ça veut dire prospérer? Je souhaite que tu prospères. Ça veut dire je souhaite que tout aille bien pour toi. Je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que tu progresses. Je souhaite que cela aille pour toi de mieux en mieux. Et cela, dans tous les domaines, à tous égards, dans tous les domaines, je souhaite que tu réussisses dans tous les domaines. Je souhaite que cela aille pour toi dans tous les domaines. Je souhaite, eh bien, que tu progresses dans tous les domaines, que cela aille bien pour toi, que tu sois heureux à tout point de vue. Bien-aimé, je souhaite, bien-aimé celui que j'aime, celui que j'aime dans la vérité, c'est-à-dire ce n'est pas simplement avec la bouche, mais c'est vraiment de tout cœur. Bien-aimé, je souhaite, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alors, certains disent que le fait que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean mentionne ou fasse le vœu que Gaius soit en bonne santé, peut-être qu'il était malade. Mais ce n'est pas nécessaire de souhaiter à quelqu'un qu'il soit en bonne santé parce qu'il est malade. Et peu importe, le vœu de l'apôtre Jean ici, c'est que son ami, son bien-aimé, eh bien, soit en bonne santé. Et c'est important d'être en bonne santé. C'est bien d'être en bonne santé. Parce que lorsqu'on est malade, eh bien, on a tendance à être découragé, à ne pas avoir le moral. Et on a tendance à se dévaloriser. C'est pourquoi c'est très important, lorsque quelqu'un est malade, que cette personne soit entourée d'affection, soit entourée d'attention, de plus d'attention, je dirais, de plus d'affection, parce que cette personne passe par un moment difficile et la santé physique a un effet donc sur le psychologique, sur le moral de la personne. Donc c'est très important d'entourer cette personne d'affection, de soins. D'ailleurs, Jésus ne dit-il pas qu'il faille visiter les malades, qu'il faille visiter ceux-là qui sont en prison, ceux-là qui sont en difficulté. Donc, la santé, c'est important. Et lorsqu'on est en bonne santé, eh bien, on a plus le moral et on se sent bien. Et on pense qu'on peut, parfois ça peut avoir des effets pervers aussi, où lorsqu'on est en bonne santé, on pense qu'on domine le monde. On peut tout faire. Donc, être en bonne santé, c'est très important. Et c'est pour ça que l'apôtre souhaite que Gaius soit en bonne santé. Donc, ce matin aussi, je souhaite à chacun de vous, que vous soyez en bonne santé. Et j'ai beaucoup pensé à ma sœur Maria en particulier. Aujourd'hui encore, j'étais dans la voiture, je pensais à toi et je priais pour toi. Et ça me fait tellement de joie de te voir. Et c'est Dieu extraordinaire. Donc je souhaite que tu prospères à tout égard. Je souhaite que cela aille bien pour toi. Et je souhaite que tu sois en bonne santé, dit Jean. Et là, après il dit, comme prospère l'état de ton âme. Et ça, ce n'est plus un souhait, c'est un compliment. Extraordinaire. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères matériellement, que tu prospères physiquement, comme tu prospères spirituellement. Et Jean exprime comment Gaius prospère spirituellement. Verset 3 nous dit, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » C'était un frère vrai. Ce n'était pas un hypocrite. Il ne portait pas de masque, mais il était vrai dans sa foi. Il était vrai dans son service du Seigneur. Et Jean continue, verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc, qu'ils marchent vraiment selon la parole, qu'ils mettent en pratique la parole. Verset 5, « Bien-aimé, tu agis fidèlement. » Il était fidèle. « Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne du Seigneur. » Que faisait Gaius? Eh bien, Gaius exerçait l'hospitalité vis-à-vis de ses prédicateurs, missionnaires, itinérants. Et Gaius les a accueillis chez lui. Il les a accueillis chez lui, s'est bien occupé d'eux. Et tout le monde était touché par la charité, par l'amour de Gaius. Ils étaient tellement touchés qu'ils en parlent, qu'ils sont repartis dire à Jean, c'est un vrai disciple ce Gaius, il nous a bien accueillis, il nous a bien traités. Et il est fidèle. Verset 7, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. En fait, dans la version française, il dit sans rien recevoir des païens. C'est plutôt que ils n'ont rien demandé aux autres. Ils n'ont rien demandé aux autres. Ils sont partis pour le nom de Jésus-Christ. En fait, dans l'original, c'est simplement écrit pour le nom. Et il faut savoir dans l'Ancien Testament et chez les Juifs, comme Dieu avait dit qu'il fallait sanctifier son nom, hein, le tétragramme, le nom Jéhovah ou Yahvé, il devait le sanctifier. Donc, les Juifs n'osaient pas dire Jéhovah ou Yahvé. Quand, même encore aujourd'hui, quand on lit par exemple l'hébreu à la synagogue et qu'on arrive sur le tétragramme, les Juifs disent Adonai. Ou bien l'autre façon de dire, donc, c'est de dire tout simplement le nom. Donc c'est pour le nom qu'ils sont partis. Alors dans la version française, comme nous ne sommes pas de la même culture des Juifs, alors pour la compréhension, ils ont ajouté Jésus-Christ, pour le nom de Jésus-Christ. Mais dans l'original, c'est simplement écrit, c'est pour le nom. Donc ici, dans le français, pour clarifier la chose, on dit pour le nom de Jésus-Christ. Et pour le nom de, donc c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Donc ces missionnaires, ces prédicateurs, donc partaient prêcher pour le nom de Jésus-Christ. Et quand ils ont prêché, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé de salaire aux païens. Donc, ils n'ont pas voulu faire de la prédication de l'Évangile un commerce. Donc, ils n'ont rien demandé. Donc, ici, c'est marqué sans rien recevoir des païens. Mais en fait, c'est sans rien prendre. Ils ont donné gratuitement l'évangile. Et ils étaient très contents que un des leurs, Gaius, un chrétien, donc les accueille chez eux. Donc, comme ça, ils n'ont pas dû demander l'hospitalité aux païens. Mais ils ont reçu l'hospitalité chez Gaius. Et c'est pour ça qu'ils étaient tellement contents de Gaius. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit, nous devons donc accueillir de tels hommes. Des hommes qui prêchent l'évangile gratuitement. Nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Par contre, il y a un autre individu qui n'avait pas la même attitude que Gaius. C'est un certain Diotref. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotref, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Diotref, lui, il n'exerce pas d'hospitalité. Hein? C'était un homme orgueilleux qui pensait être le premier. Et verset 10, c'est pourquoi si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Donc non seulement que Diotref n'exerçait pas l'hospitalité, mais c'était un homme qui racontait des ragots, des médisances, des calomnies. Et ensuite, Jean continue, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Donc ce Diotref était vraiment un homme méchant. Donc il racontait des fausses, il créait des rumeurs à propos de Jean, à propos des frères. Il n'exerçait pas l'hospitalité et il empêchait même d'autres de l'exercer. Malheureusement, j'ai connu ça aussi. Quand j'avais l'église à Bruxelles, la première église à Bruxelles, il y avait un individu qui avait quitté l'église. Et alors, c'est seulement par après, cet homme a semé la terreur dans l'église. Et seulement par après, quand j'ai appris que quand certains voulaient revenir dans l'église, ils faisaient tout pour que les gens ne reviennent pas à l'église. D'ailleurs, il allait même visiter les gens un par un pour dire il ne faut pas aller à l'église. Voilà. Malheureusement, il y a de tels individus. Et l'apôtre Jean dit, c'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Verset 11, encore le mot « bien-aimé ». N'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Par contre, il y a un autre individu qui est de même nature que Gaius. Et Jean va faire son éloge aussi. Tous, et la vérité elle-même rend un bon témoignage à Démétrius. Hein, il y a plusieurs Démétrius, il y a un mauvais ici, c'est un bon. Il y a un mauvais qui avait créé des problèmes à Paul, ici c'est un bon Démétrius. Tous, et la vérité elle-même rend un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Quel compliment! Jean dit, tous! Et la vérité elle-même rend un bon témoignage de Démétrius. Puissions-nous avoir un tel témoignage et qu'on puisse dire de nous tous, et la vérité elle-même rend un bon témoignage de nous. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. J'en dis, tous rendent un bon témoignage de Démétrius. la vérité elle-même, et moi aussi, je rends témoignage de lui. Alors revenons donc à notre verset clé de ce matin. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc nous voyons ici trois domaines, matériel, physique et spirituel. Qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, que tout aille bien pour nous à tous égards. Peu après le début, peu après la naissance de l'Église, il y avait une fausse doctrine qui circulait, qui disait que le corps était mauvais et qu'il n'y avait que l'esprit, il fallait seulement soigner l'esprit. Et donc, les conséquences de cela, c'est que si le corps n'a pas d'importance, eh bien, négligeons le corps. Hein? Négligeons le corps, ou bien... Donc, faisons ce qu'on veut avec le corps. Hein? Et on peut pécher. Mais l'apôtre Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, Dieu veut notre bien, non seulement notre bien spirituel, mais aussi notre bien physique et notre bien matériel. Maintenant, la prospérité dont il est question ici, c'est pas comme l'enseigne, entre guillemets, l'évangile de la prospérité, qui prétend que donc tous les chrétiens doivent être riches, et que donc tu ne peux pas être malade, tu ne peux pas être au chômage, et donc si tu es au chômage, c'est parce que tu n'as pas la foi, etc. Mais la Bible n'enseigne pas de telles choses. Ce que la Bible enseigne, c'est que Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Dieu prend soin de ses enfants. Et Paul dit, j'ai appris à être content dans n'importe quelle circonstance. Dans l'abondance comme dans la disette. Parce que Dieu, il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là avec nous. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il ne s'agit pas de cette prospérité disant que tout le monde doit être riche. Sans doute que le Seigneur veut que certains soient riches. Et par leur richesse, ils peuvent aider l'œuvre de Dieu. Mais tout le monde n'est pas appelé à être riche. De même que tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas, tout le monde n'a pas le même don. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu, il pourvoit pour ses enfants et il veut que nous soyons bien. Et donc, Dieu veut que nous soyons bien dans tous les domaines, spirituels, physiques et matériels. Donc, Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. C'est pour ça qu'il est appelé Jéhovah Jiré. Jéhovah Jiré. Donc, le Seigneur veut que nous soyons bien dans tous les domaines. Et Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, eh bien, il est mort pour nos péchés, mais on voit aussi, lorsqu'il exerçait le ministère sur la terre, il a guéri les malades. Et il a aussi fait la multiplication des pains. Et il est dit aussi, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, le Christ est mort pour notre salut total. Pour notre salut total. Et dans 1 Corinthiens, Paul nous dit aussi que eh bien, ce corps mortel que nous avons sera transformé par un corps glorieux. Par un corps glorieux. Et un corps comme le corps glorieux qu'avait Jésus après la résurrection. Alors, chassons toute mauvaise idée du diable qui voudrait nous rendre misérables. Mais voyons que Dieu veut notre bien à tous égards. Bien-aimés, nous sommes aimés de Dieu. Bien-aimés, nous sommes aimés de Dieu. Et c'est pourquoi Jean utilise ce langage. Bien-aimés, je souhaite, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaiterais faire ce compliment à tout un chacun de dire comme prospère l'état de ton âme. Et j'ai beaucoup apprécié la prière de notre frère tout à l'heure qui a ce désir de servir le Seigneur de tout son cœur. En ce début d'année, comment est notre cœur avec le Seigneur? Comment est notre âme avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes 100% avec le Seigneur? Lorsque nous venons à l'église, est-ce que nous pouvons dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur? Ou bien est-ce que nous traînons les pieds pour venir à l'église? Est-ce que nous avons toujours cette même flamme, ce même zèle que lorsque nous avons connu le Seigneur pour chercher sa face, pour prier, pour mettre du temps à part pour le Seigneur? Celui qui est en feu, en flamme pour le Seigneur, eh bien, développe cette communion avec le Seigneur. Avons-nous cette soif toujours de sa parole? Parce que sa parole, c'est notre nourriture. Sa parole, c'est notre lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que nous mettons le royaume de Dieu avant toute chose? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Comment est notre âme aujourd'hui? Est-ce que nous avons aussi ce désir de faire connaître cette bonne nouvelle, de dire je ne peux pas garder ça pour moi-même? Est-ce que nous sommes fidèles? Tout cela sont toutes ces choses-là sont le reflet de l'état de notre âme. Les propos qui sortent de notre bouche, notre vocabulaire, notre désir de prier, notre désir de parler autour de nous de ce que le Seigneur, de qui est le Seigneur, de ce qu'il fait dans nos vies, de ce qu'il fait autour de nous, notre attachement à sa parole. Alors je souhaiterais pouvoir faire le souhait de la même manière que Jean. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, dans l'Occident, le souhait devrait plutôt être inversé. C'est de dire, je souhaite que ton âme prospère comme tes affaires prospèrent. Je souhaite que tu prospères comme tu prospères matériellement. Je souhaite que ton âme prospère comme tu prospères matériellement. Et sois en bonne santé. Mais ici, on a un Gaius qui était un vrai serviteur de Dieu, qui reflétait vraiment le cœur de Dieu. Alors, bien-aimé, pour terminer, je souhaite que chacun de nous, nous prospérons à tous égards, spirituels, physiques et matériels. Dieu est capable qu'il le fasse pour chacun de nous, qu'il le fasse pour son Église. Amen.
Merci. Merci, Pasteur Martin, pour les bonnes paroles. Et c'est vrai que plusieurs ont été malades. Mon Sabibiche, qui n'a pas été bien, qui est en train de se rétablir tout doucement, elle remonte. Et Maria, qui est ici, qui était malade longtemps, et qui a encore beaucoup de difficultés. Je pense à Emmanuel, qui remonte aussi, comment ? Trois ans, oui. Oui, et plusieurs, Micheline qui a eu un rhume, et d'autres qui ont eu des difficultés. Alors, on va prier pour tous ceux qui ont connu des difficultés et qui sont en train d'être restaurés par Dieu. Hein. Et spirituellement, ça dépend beaucoup de nous. Hein. Si nous nous approchons de Dieu, nous aimons la parole, celui qui est bouillant, il va vers la, il faut pas lui dire, mais... Que tous nous soyons encouragés, en tout cas, à aller au pied de la croix, hein, pour recevoir des forces nouvelles. Quand on va bien à l'intérieur, comme disait notre frère, ça va déjà beaucoup mieux pour le moral, hein, physiquement aussi. Hein. Si on est bien physiquement, ça va mieux pour le moral. Mais spirituellement, si on est bon, on est bien avec Dieu, on est beaucoup plus fort qu'un autre, hein, que quand on n'est pas fort avec Dieu. Alors, prions. Seigneur Père, nous te prions vraiment, Seigneur, que 2018, c'est pas seulement un vœu creux, que 2018 soit une belle année, Seigneur, une année riche en bénédictions, que nous puissions prospérer, et c'est une démarche de foi aussi de notre part. Comme l'apôtre Jean, qui espère le meilleur. Merci pour Gaius, merci pour ces hommes de foi. Seigneur, nous voulons... à avoir nos yeux sur ta parole, Seigneur. Merci Jésus, pose tes mains sur notre cœur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi parce que une bonne santé, ça dépend de toi aussi. Tout ce que nous pouvons faire, nous allons le faire. Spirituellement, en tout cas, c'est la parole de Dieu, nous nourrir de toi. C'est entrer en relation avec toi. Le plus souvent possible, rester en communion, prier sans cesse, rester en communion avec toi, en contact avec toi, avoir des paroles qui viennent de ton cœur. Seigneur, pardonne-nous pour les mots, les vocabulaires, les mots de ce monde, de ce bas monde, désillusionnés, qui critiquent. Donne-nous de ne pas critiquer, donne-nous de passer au-dessus de ces choses et de voir le meilleur. De parler d'avoir des paroles d'encouragement, des paroles qui fortifient l'autre, qui bénit notre âme aussi. Des paroles qui vont nous enrichir, nous fortifier, nous construire. Merci Jésus. Nous laisser devant toi toute parole, tout mot qui crée des dépressions, qui crée de découragement, qui peut-être décourage les autres, affaiblissant, pour nous revêtir de tes paroles qui encouragent et fortifient. Merci Seigneur. Paroles d'amour, bien-aimées. Merci Seigneur. Merci Jésus.